Devenir art, rencontre régionale des arts visuels qui s'est déroulée le 12 septembre 2025 à Talmetour, un podcast proposé en 4 épisodes et réalisé par Mélissa Vikilus ainsi que Louise Wallet. Épisode 1. Introduction de la journée, puis interview de Jean-Baptiste Reblé associé au métier de la culture, puis de Anne-Lise Voisin, une artiste qui fait partie du mouvement Culture en Lutte et qui nous explique les dispositifs d'accompagnement lorsque l'on est artiste. Et donc ici nous avons un premier invité à notre table, il s'agit de Jean-Baptiste Reblé. Est-ce que tu pourrais te présenter ? S'il te plaît.
Bonjour à tous et toutes, Jean-Baptiste Reblé, du coup je suis co-coordinateur d'une structure qui s'appelle Méticulture. Je vous représente en quelques mots Méticulture. Méticulture, du coup, on est une association qui réunit différents acteurs, risques de l'emploi, de la formation et de la culture en Centre-Val de Loire pour traiter de la question de la formation et de l'emploi dans ce secteur sur notre région. On a deux missions, une mission d'observation de l'emploi, donc on peut mener des enquêtes comme celle que nous avons présentée ce matin, et on a aussi des actions de sécurisation des parcours professionnels qui visent à maintenir les professionnels dans l'emploi ou à faciliter leurs insertions.
Et du coup, comment est-ce que tu as connu Devenir Art, ou comment est-ce que tu as pu faire une conférence ici ?
Eh bien, tout simplement parce que Devenir Art fait partie de Méticulture. Ils sont présents dans le bureau de l'association Méticulture. Ils représentent les acteuristes de la filière des musiques actuelles, donc les artistes auteurs, les galeries d'art du Centre Val de Loire. Et donc, à ce titre, Devenir Art participe aux réflexions que nous avons autour de Méticulture. C'est comme ça qu'ils nous ont sollicités. Et puis Devenir Art a participé assez largement à l'enquête que nous avons menée avec eux.
Et du coup, si tu devais résumer cette enquête que tu as présentée ce matin, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots ?
Comme je le disais ce matin, c'est que l'heure est grave pour l'économie et l'emploi dans le secteur culturel. Notre enquête sur les impacts de financement montre que les baisses de subventions ont fortement impacté le secteur, la culture qui peut être vue par certaines collectivités un petit peu comme une variable d'ajustement, puisque la compétence culturelle est une compétence partagée entre les différentes collectivités, certaines ne la voient pas comme obligatoire, donc ce qui fait que c'est souvent vu comme une variable d'ajustement, et donc ça se traduit en chiffres, puisque on a eu, on a eu un quart des demandes de subventions qui ont été faites en 2025 par les structures qui ont répondu à notre enquête qui sont à la baisse. Donc c'est assez important. Donc c'est plutôt des baisses de l'ordre de 1 à 25% de baisse. Et donc ces baisses, elles sont cumulatives à une conjoncture qui est déjà en place depuis quelques années sur le secteur culturel, où ça fait déjà depuis la crise Covid que l'économie du secteur se porte mal, avec la crise Covid qui a entraîné la fermeture des lieux, l'arrêt de la création, etc. Ensuite, il y a eu la crise énergétique qui a entraîné la hausse des coûts pour les structures du secteur, qui fait qu'on a un effet ciseau à l'heure actuelle sur les structures qui pèsent sur l'emploi et sur l'emploi permanent dès 2025, puisqu'il y en a, 13% qui envisagent de déjà avoir recours à des licenciements économiques sur leurs emplois généraux parmi nos répondants à cette enquête. Les impacts ils sont aussi nombreux sur les projets qui sont revus à la baisse. Forcément, il y a moins d'événements qui sont créés, moins de créations qui sont imaginées par les compagnies, etc. L'économie du secteur est un petit peu en berne face à cette crise budgétaire.
Et est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place ou pas du tout ?
Alors, il y a des solutions qui existent pour accompagner les structures et les artistes auteurs du secteur. Par exemple, pour les structures associatives, il y a ce qu'on appelle le dispositif local d'accompagnement, qui est le DLA, qui existe sur chaque département, qui peut accompagner les associations qui rencontrent des difficultés économiques. On a aussi des dispositifs qui peuvent être portés par des réseaux de l'économie sociale et solidaire, comme le mouvement associatif ou France Active, qui peut octroyer des prêts pour subvenir à des besoins en trésorerie momentanés. Donc il y a des solutions qui existent pour essayer de passer des caps. Voilà, seulement si les baisses s'accentuent de plus en plus, voilà, ces solutions ne pourront pas sauver l'ensemble des structures du secteur. Donc voilà, il y en a aussi d'autres à imaginer. Voilà, je parlais tout à l'heure des logiques de mutualisation d'emplois. Voilà, la question des groupements d'employeurs. On pense que l'emploi, malheureusement, à temps plein dans le secteur culturel, il va être amené à se raréfier dans ce contexte, puisque on n'entrevoit pas d'évolution positive pour l'instant. On espère que ça viendra. Mais nous, voilà, on travaille plutôt sur cette logique de comment on mutualise de l'emploi pour essayer de les sauvegarder au maximum. Voilà, donc c'est toutes ces pistes qui existent. Il y en a sans doute d'autres que j'oublie. Voilà, que l'on explore au niveau de Méticulture avec nos partenaires pour essayer, dans ce contexte morose, d'apporter quand même des solutions malgré tout.
Et sur la dernière partie de cette conférence, on peut dire que c'était une sorte de conférence, il y avait une session ouverte où des gens posaient des questions, tout ça. Est-ce que ça t'a rendu compte de certaines choses que tu pensais pas forcément ou...
Bah, dans les questions qui ont été posées, c'était des choses auxquelles on avait déjà un petit peu conscience. Voilà, donc, notamment sur... voilà, on n'a pas eu forcément beaucoup de réponses, enfin pas autant de réponses qu'espérées à notre questionnaire. Voilà, on a une centaine de réponses, ce qui est déjà bien. On aurait aimé en avoir plus. Donc voilà, la problématique, il y a plein de questionnaires en même temps, d'essayer de les coordonner. Donc ça, on en avait conscience, on y travaille. Voilà, après, dans les autres problématiques qui ont été évoquées, bah, ça va dans le sens des chiffres, je trouve, que l'on a annoncés. Voilà, et puis c'était intéressant d'avoir des témoignages aussi de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, où les chiffres commencent à tomber chez eux aussi, puis de la région Pays de la Loire, qui a été la plus impactée par ces baisses de financement, notamment liées à la baisse des subventions du conseil régional, qui ont été assez drastiques. Et donc c'est ce constat des Pays de la Loire qui nous a amené à dire faut qu'on fasse une enquête aussi en région, parce que il y a eu des baisses en région, moins drastiques, mais ces baisses, elles ont aussi leur impact sur notre région. Voilà.
Alors, on te connaît plus dans les radios associatives, justement, pour ce dispositif de mentorat féminin et pour les actions menées, disons, dans le champ des musiques actuelles. Et je voudrais savoir s'il existe un dispositif équivalent de mentorat féminin dans les arts visuels.
Oui, bah, parce que, alors, pour refaire l'historique, du coup, Affranchi a été créé, donc notre dispositif, le programme de mentorat féminin dans la culture en Centre-Val de Loire a été créé à l'échelle du spectacle vivant en 2021. Et on l'a élargi dès sa deuxième édition aux arts visuels. Du coup, la deuxième édition, c'était en 2022-2023. Donc voilà, alors, tout le monde ne le sait pas, mais il est aussi ouvert aux arts visuels maintenant. Voilà. Et notamment aux artistes-auteurs, on a eu sur la deuxième édition deux binômes d'artistes-auteurs. Et puis je crois que cette année, il y a encore un binôme d'artistes-auteuristes plasticiennes des arts visuels. Donc voilà, il est possible pour les femmes du secteur des arts visuels de participer à Affranchi.
Tu as évoqué la possibilité de mutualiser des emplois. Alors est-ce que tu parles, disons, d'emplois qui sont plutôt dans l'administratif, dans les fonctions support, dans la médiation? Et est-ce qu'on pourrait sinon imaginer des statuts d'artistes salariés?
Oui, alors effectivement, la question de la mutualisation, on l'aborde beaucoup par le prisme des fonctions support. Du coup, voilà, sur les fonctions administratives, on a publié une enquête disant qu'il y avait des métiers en tension sur ces métiers-là, les métiers administratifs de la culture qui ne sont pas forcément très connus. Après, pour répondre à tes questions sur le groupement d'employeurs plutôt artistiques, l'emploi artistique salarié, il y a déjà des formes qui existent un petit peu à ce niveau-là. Je pense aux coopératives d'activité et d'emploi. Et c'est à eux, du coup, il y en a une en région, notamment, qui est sur le champ artistique et culturel, c'est Artefact. Voilà, où on peut retrouver des personnes, en fait, c'est des entrepreneurs salariés, voilà, qui peuvent avoir des activités artistiques et aussi des activités voilà, diverses et variées au sein d'une même structure, voilà, d'une même typologie. Donc je pense que le statut de CAE peut être peut-être adapté à cette vision que tu évoques. Voilà.
Alors moi, j'ai pas tout compris dans tout ce que tu faisais, etc. Mais est-ce que ça implique aussi de mettre des résidences en place pour les artistes? Est-ce que ça fait aussi partie de ce que tu fais?
Alors nous, Métier Culture, on met pas en place de résidences spécialement. Mais par contre, on a notre site internet voilà, qui est très vu. Un peu vieillot, on va le refaire. Mais il est très vu parce que voilà, on publie les offres d'emploi dans le secteur, le catalogue de formation. Et on publie des opportunités pour les artistes, plasticiens, plasticiennes notamment, donc des appels à résidence que l'on relaie sur notre site. Voilà. Donc nous, on est plutôt relais d'informations de ce type-là plutôt que nous-mêmes accueillants en résident. Voilà.
Et donc, par exemple, si on est étudiant ou étudiante et qu'on n'a pas encore comment ça s'appelle, un numéro de SIRET, pour être artiste, je crois que c'est ça. Est-ce qu'on peut quand même prendre contact avec toi ou je sais pas, pour des opportunités, des choses qui sont pour des futurs peut-être artistes?
Ouais, carrément. Nous, on peut orienter, suivant les projets, les besoins, vers la bonne structure qui peut vous accompagner suivant le projet. On peut aussi vous apporter des informations sur l'état économique du secteur, sur les métiers qui sont recherchés aussi, parce que voilà, ça peut parfois être difficile de mener de front au niveau économique une seule activité d'artiste. Voilà, ça peut être pas mal de la mutualiser avec un poste dans une fonction administrative. Et là, on a des besoins dans la culture. Du coup, nous, on peut renseigner un petit peu sur toutes ces choses-là. Donc, pas hésiter à nous solliciter, effectivement. On avait eu des contacts avec des écoles d'art en région, justement, pour venir présenter un peu le secteur du point de vue de l'emploi. Voilà, ça ne s'est pas encore concrétisé, mais on espère pouvoir le faire à l'avenir.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous.
On est trop contents d'avoir ouvert cette fenêtre alternative, populaire, inclusive, avec beaucoup de jeunes. Et voilà, c'est super, mais c'est du boulot. Parfois un peu hardcore par rapport au salaire qu'il y a derrière, entre guillemets. Mais on le fait finalement exister, c'est militer. Mais on ressent vraiment aujourd'hui qu'exister, c'est militer. Et avec des baisses de subventions, encore plus.
Eh bien, nous sommes toujours sur ces rencontres régionales des arts visuels qui se déroulent à Talmetour en ce vendredi 12 septembre. Et je suis avec Annelise Voisin. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Annelise, je suis artiste plasticienne basée à Tours. Je suis diplômée de l'École des Beaux-Arts de Tours depuis moultes années. Je suis membre du réseau Devenir Art et un petit peu plus que membre parce que je fais partie du bureau. Je suis syndiquée à la SNAP-CGT et je fais partie du mouvement Culture en Lutte puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui.
Et du coup, qu'est-ce que c'est Culture en Lutte ?
Ouais, alors Culture en Lutte, c'est un mouvement qui s'est lancé en janvier, qui réunit toutes les travailleuses du milieu de la culture, que ce soit les arts vivants, les arts visuels, etc. Et qui s'est lancé après les grosses coupes budgétaires qui ont eu lieu dans le Pays de la Loire et dans l'Hérault en décembre dernier, et qui s'en est suivi aussi de la réforme du RSA, dite loi du plein emploi, qui touche particulièrement les artistes auteuristes, puisque pour la plupart d'entre nous, nous vivons du RSA, malheureusement. Et puis avec tout un tas de messages à faire porter sur les problématiques du secteur qui est en crise actuellement, et un vrai collectif qui se monte inter-métier.
Est-ce que quand tu étais étudiante à Talmetour, tu étais déjà syndiquée à d'autres endroits, ou est-ce qu'il y avait des choses qui existaient déjà ?
Il y avait des choses qui existaient, mais j'étais pas syndiquée à cette époque-là. Je suis syndiquée de manière très récente, en fait. Je suis syndiquée depuis janvier, donc à peu près au même moment où le mouvement Culture en Lutte s'est lancé. Et c'est suite à ma présence aux réunions sur Paris du mouvement Culture en Lutte que j'ai décidé de me syndiquer. C'est un peu triste à dire, mais on dit souvent qu'on finit par se syndiquer quand on en a personnellement besoin. C'est dommage parce qu'en fait, on ne devrait pas attendre ce moment-là parce que c'est important de réfléchir à nos métiers en tout point de vue. Mais moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai senti que quelque chose était vraiment en train de bouger au niveau national, au niveau d'un mouvement de métiers, de la culture qui n'en pouvait plus, en fait. Et qui du coup essayait de faire quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était important que moi aussi je me syndique, et aussi parce qu'en fait je suis aujourd'hui non pas représentante syndicale de la SNAP-CGT, qui est le syndicat national des artistes plasticiens en région Centre-Val de Loire, mais je suis référent puisque il y a personne d'autre et que du coup, il y a d'autres personnes qui sont syndiquées, mais je suis la seule à être en lien avec la SNAP-CGT au niveau national, et donc je porte leur voix en région aujourd'hui.
Tout à l'heure, pendant la conférence, on parlait beaucoup des personnes artistes en général, mais par exemple, ceux qui sont étudiants ou étudiantes en art, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut aussi adhérer? Est-ce qu'on peut aussi avoir peut-être un rôle dans ces organisations?
Ouais. Ouais, bien sûr. Et notamment, c'est important d'indiquer que le mouvement Culture en Lutte, il est certes porté par des syndicats parce qu'ils ont l'habitude de porter une organisation, mais qu'il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour faire partie de ce mouvement. Et d'ailleurs, les étudiants sur Paris, étudiantes, étaient très présentes pendant toutes les AG qui ont lieu à Paris. Et à Tours, ils ont été invités aussi, les étudiantes de Talm. Il y en a eu quelques-uns qui sont venus sur la toute première AG. Mais il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour faire partie d'un mouvement tel que Culture en Lutte.
D'accord. Ça, c'est intéressant à savoir. Et toi, du coup, ta pratique artistique, est-ce que tu... Enfin, là, ça va être un sujet un peu différent. Est-ce que tu la lis avec ça, avec le fait que tu te sois syndiquée?
Alors moi, je pense que le fait que je me sois syndiquée et que je fasse partie de beaucoup de mouvements qui réfléchissent à l'état des arts visuels aujourd'hui, et notamment que je fasse partie de Devenir Art, tout ça est peut-être lié... Enfin, j'ai une pratique, en tout cas, qui est très... pluridisciplinaire, social, et je travaille avec les autres, en fait. je vais toujours à la rencontre, je fais ce que j'appelle des études de territoire, des études de paysage, et tout ça via les personnes qui vivent, en fait, sur nos territoires. Et donc ça passe toujours par la rencontre et par la transmission de leurs histoires de vie, de leur manière de vivre, et pour essayer de comprendre un peu notre société et la comprendre par les gens qui la composent, en fait, plutôt que par des grands événements historiques ou par je ne sais quelle autre chose. Mais du coup, oui, le partage, la rencontre, la transmission et le collectif fait vraiment partie de ma pratique. Mais effectivement, pour les étudiantes, c'est plus compliqué, puisqu'il faut pour ça créer son entreprise individuelle, avoir un numéro de tirette. Et donc, ceci étant dit, je ne sais pas, là pour le coup je vais être très honnête, je ne sais pas si on peut créer son entreprise individuelle en étant encore étudiant.
Je ne suis pas sûre, je crois qu'il faut être diplômé à mon avis. Il me semble qu'il faut avoir minimum un grade licence ou quelque chose comme ça. Genre
alors
DNA,
ça c'est sûr que non, parce qu'on peut être autodidacte et être artiste, et donc avoir un statut d'artiste auteuriste avec le numéro tirette qui va avec sans diplôme, ça c'est sûr. Après, je vois pas ce qui opposerait d'être... Le problème étant que, en fait, quand on crée son entreprise individuelle et donc qu'on est affilié à l'URSSAF et donc qu'on doit payer à l'URSSAF de l'argent sur ce qu'on reçoit, à ce moment-là, il faut avoir des revenus qui rentrent un petit peu, ce qui peut être moins le cas quand on est étudiante, et aussi parce qu'on a tendance à pas vous payer, puisqu'on estime que, voilà, on vous donne une chance. Mais ça continue après, hein, si ça peut. Et je dirais que c'est plutôt dans le cadre diffusion, effectivement, qu'on est censé toucher des droits d'auteur. Et que donc, si la création n'est pas produite, on est censé être rémunéré pour une création. Sauf si c'est une création personnelle qui n'a pas été produite dans le cadre d'une exposition, d'une résidence, etc. Donc si on est en résidence, si on nous demande une création pour une exposition X ou Y... on est censé avoir une rémunération dédiée à ce temps de création. En résidence, on est rémunéré, par exemple, pour la création. Et ça, c'est vraiment sur facture, et puis c'est rémunération d'artiste. Et les droits d'auteur seraient plutôt pour de la diffusion. Mais là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc,
peut-être qu'on peut aussi rappeler comment on est payé quand on est artiste dans le champ des arts visuels. Peut-être aussi de dire qu'il n'y a pas de statut d'intermittent comme dans les arts vivants, par exemple. Donc ça, ça peut être aussi intéressant de le rappeler.
Ouais, évidemment, il n'y a pas de statut d'intermittent. Les artistes auteuristes n'ont pas le droit au chômage. Et il y a une loi qui est en train d'essayer d'être passée, mais qui n'est toujours pas passée, pour une continuité de revenus des artistes auteuristes, donc avec une meilleure représentation au niveau de la sécurité sociale, parce qu'il y a plein de droits auxquels on n'a pas le droit. Et avec l'accès à une forme d'intermittence, donc à être inscrit sur les caisses d'allocation chômage. et de pouvoir avoir une rémunération même quand on n'a pas de contrat, parce qu'en fait l'intermittence c'est sur un système d'heures que nous on peut difficilement calculer, mais enfin qu'on peut difficilement prouver, mais par contre on connaît ce qu'on touche sur l'année, et en fait c'est à partir de notre chiffre d'affaires annuel que on détermine un nombre d'heures, et c'est comme ça en fait derrière qu'on pourrait toucher du chômage. Ce serait le système qui se passerait.
Oui, en fait, c'est en étant étudiante à Talmetour, j'avoue qu'on n'est pas très informés sur ça. Bon, après, je suis qu'en deuxième année, donc voilà, il y a le temps de voir venir les choses, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. On ne sait pas qu'on n'a pas le droit à l'assurance chômage, tout ça. Donc, est-ce que ça serait possible ou envisageable d'avoir des interventions, peut-être en deuxième, troisième année, histoire de savoir un petit peu vers où on va
Eh bien, ça, ouais, c'est quelque chose qu'il faut voir effectivement avec l'école pour qu'ils vous proposent ce système-là. Donc, moi qui ai fait l'école des Beaux-Arts de Tours, je me souviens avoir eu un ou deux cours, peut-être, quand j'étais en cinquième année, sur l'après. Ouais. Avec une intervention, effectivement, mais sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais tellement pas dans la vie professionnelle que ça me paraissait très loin et très abstrait. Après, ce qu'il existe et ce qui est assez chouette, et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai fini par me former, c'est qu'il y a des formations sur ces sujets-là et qui sont souvent gratuites pour les artistes auteuristes. Faut postuler simplement et puis espérer faire partie des personnes qui en bénéficient, mais moi j'ai eu au moins 3 formations sur ce que c'est que le statut d'artiste auteuriste, et puis il y a des ressources qui existent après sur tout ça en ligne qui sont assez bien faites, mais ouais, effectivement on n'est pas suffisamment formé à tout ça, j'en conviens.
Est-ce que vous voudriez aussi expliquer aux auditeurs tout ce que ça recoupe, en fait, le travail, quand on voit une œuvre terminée. Il y a eu, parce que sur l'idée de compter les heures de travail, toutes les choses, en fait, qui participent à la création d'une œuvre. Donc il y a énormément de travail en amont, j'imagine. Est-ce que vous voudriez expliquer toutes les actions, toutes les choses que vous faites avant qu'on puisse voir l'œuvre finie ?
À titre personnel, déjà il y a tout ce qui est conception du sujet, tout ça, réfléchir aux enjeux qu'on veut faire, les croquis, les schémas, tout ça. Puis après il y a une partie aussi d'aller faire des recherches à la bibliothèque sur des livres, des références, tout ça. Et puis après il y a toute la partie conception, mais qui prend du temps aussi à réfléchir. Tout ce qui est aussi le coût des matériaux, ça c'est un gros point. Et la mise en place avec tous les soucis que ça entraîne. Je dirais un peu ça. Après, je suis pas vraiment la personne pour dire tout ça, mais voilà.
Mais c'est il y a ça, et puis effectivement, donc je vais compléter. En fait, il y a un travail de recherche continue. En fait, ça c'est en tant qu'artiste, en fait, on est constamment en recherche, et ça c'est une recherche qui n'est jamais rémunérée. Il y a toute la partie, en fait, on se rend pas compte, mais être artiste, plasticien, plasticienne, c'est peut-être 30% de création et 70% d'administratif. Donc en fait, il y a aussi monter des dossiers pour trouver des lieux de diffusion, pour postuler à des résidences, pour postuler à des lieux de création, pour postuler à des subventions pour pouvoir se rémunérer sur nos projets personnels. Il faut aussi payer son atelier, si on a la chance d'en avoir un.
Électricité.
Ça a été dit tout à l'heure, effectivement. Mais... Donc c'est ça, c'est aussi tout un travail préparatoire d'écriture du projet, de vendre son projet en fait autour de soi pour que des gens croient en nous et pour qu'on puisse le monter et puis qu'on puisse le financer de manière très spécifique aussi. Et puis derrière, il y a tout le temps de travail effectivement de création, mais le temps de création en fait il découle d'heures et d'heures de... en fait, on est des chercheuses, quoi. On se spécialise sur un sujet pour pouvoir en parler ensuite. Donc, et ensuite, donc, la création et ensuite la diffusion, si on a la chance que le projet soit diffusé.
Il y a aussi le temps d'essayer, de recommencer, de rater des fois et de refaire encore. Tout ça, c'est aussi des heures.
Bien sûr. Ouais, ça, je le compte dans le temps de création. Mais effectivement, le temps de création, il se fait pas en deux jours, quoi. Souvent, il se fait... c'est des temps longs, tout ça.
Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était super sympa et je rappelle que le 15 septembre de 12h à 14h, il y a une assemblée générale, si j'ai bien compris, de culture en lutte au Théâtre Olympia à Tours.
Oui.
Et aussi qu'on peut suivre culture et lutte en lutte sur Instagram, je sais plus trop.
Ouais, c'est ça, culture au pluriel en lutte 37, ça c'est l'Instagram, on donne les infos.
Ouais, super, bah merci beaucoup.
Merci.
Devenir Art, rencontre régionale des arts visuels, un podcast en 4 épisodes, réalisé par Mélissa Vicilius et Louise Wallet, retrouvable sur radiocampustour.com.